Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC.
Le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein ? C'est toi ? Je te flagelle la gueule à coups de cravache !
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Voilà, Toto, notre réalisateur qui nous gratifie de petits extraits, de petites chansons. Là, on a écouté Julien Lambert, évidemment, ce fameux film qui fait toujours autant marrer quand on le regarde. Le peloton du Tour de France sur les Champs-Élysées, il ne les quittera plus les Champs-Élysées, hein, Pierre-Yves, d'ici l'arrivée tout à l'heure, oui. 40 km.
Désormais, ça sera effectivement le lieu pour terminer ce Tour de France. Ils sont toujours 5 en tête, je compte, oui, ils sont 5 en tête. Emmené à l'instant par Bisseger qui a eu vraiment de la malchance sur les chronos, lui qui aurait pu gagner au Danemark et hier du côté de Rocamadour a eu des soucis mécaniques les deux fois. Et bien il essaye de se montrer encore, il est accompagné notamment de Dani Martinez et de Mathieu Burgodeau avec toujours 5 petites secondes d'avance sur le peloton. 5 hommes en tête qui tournent actuellement autour de l'Arc de Triomphe pour redescendre une nouvelle fois les Champs-Élysées.
Avance réduite, hein, Jérôme. Oh, je te vois bailler là, tu t'ennuies dans ce
Non, pas du tout. C'est toujours signe de forme quand on baille.
D'accord.
Toi, tu faut le savoir ça.
Je baille pas beaucoup moi.
Non, mais bien sûr, avance réduite, hein. Il y a toujours des coureurs qui relancent à l'arrière ou les équipes de sprinteurs qui commencent à se mettre en route. On voit là Lotto Soudal pour Caleb Ewan ou Alpecin de Koenig pour Philipsen.
OK, c'est l'heure des paris, il est 19h pile sur RMC.
Les paris RMC.
Avec Johan Bredo qui nous rejoint une nouvelle fois, une dernière fois. Non, il sera avec nous aussi dans l'after tout à l'heure pour remettre les récompenses, hein, pour décerner le maillot jaune de l'équipe à Jérôme Coppel, qui a moins d'un miracle, ne sera pas battu, à moins que, évidemment, Pierre-Yves Leroux arrive enfin à donner un bon pronostic pour la première fois. En combien de tours déjà, Pierre-Yves ?
16.
Ce serait la première fois.
Non, ça fait 15. Mais j'ai souvent gagné, en fait, cette compétition. Mais toi, tu t'en souviens jamais, mais la plupart du temps je suis le plus brillant.
Alors c'est vrai que cette année, souviens jamais quand même.
C'est vrai que cette année j'ai été particulièrement mauvais.
Oui, ça c'est bien de le reconnaître.
Mais j'ai cherché que des grosses cotes. En il faut le reconnaître. Et ça sera le cas.
Jérôme aussi a cherché des grosses cotes, mais lui l'a mis au fond. Alors Johan, déjà on rappelle le classement de ce Tour de France des paris RMC.
Oui, salut messieurs, salut à tous. Salut, le classement, c'est Jérôme Coppel avec 530 euros de gain quand même. Jérôme qui a pas mal et qui nous met tout ça à l'amende, évidemment. Ensuite, on a Arnaud Souk, hein, moins 75 euros. Là, on sera dans le négatif. Je suis là avec 82,50 euros de perdu. Cyril, 90 euros de perdu. Christophe, t'approches les 100 euros, 99 euros de perdu. Et évidemment, bon, Pierre-Yves avec 200 euros de perdu. Et si j'en crois son pronostic aujourd'hui, ça sera 210, évidemment.
Attends. On est donc les deux derniers, Pierre-Yves, quand même. Il faut le savoir, on est vraiment les plus mauvais. Hein.
Oui,
non, mais pas seulement dans les paris, d'ailleurs. C'est ça le souci.
Non, mais je rembourserai toutes mes dettes. Hein, y a pas de
t'as
souci.
Intérêt, t'as oui. intérêt. Moi, non. Je ne rembourse rien du tout. Alors, les pronostics pour la victoire d'étape aujourd'hui. Donc, quelles sont les meilleures cotes et quels sont les favoris de cette étape, Johan ?
Il y en a 5, voire 6. Le favori, c'est Jasper Philipsen. Tiens, côté à 3,10. Ensuite, on a Fabio Jakobsen et Wout van Aert, côté à 5. À 5,50, on a Dylan Groenewegen. À 8, on a Caleb Ewan. Et enfin, le 6e, je vous le disais, c'est Mats Pedersen, le Danois, qui est lui côté à 13.
Ok, on revient sur nos paris d'hier soir. Monsieur Guimard, sur qui avez-vous misé toutes vos petites économies qui ne sont plus très conséquentes ?
Non, j'ai fait un gros prêt à la banque pour pouvoir parier sur Caleb Ewan.
Caleb Ewan. Il va donc y arriver un petit malheur dans quelques instants.
Je ne sais pas, parce que c'est quand même des prêts à 8%. Hein.
Ah oui, en plus, ça va te coûter cher. Jérôme.
Moi, j'avais repris une grosse cote pour pas donner toujours les mêmes. J'avais donné Alexander Christophe.
Alexander Christophe, ancien très grand sprinter, aujourd'hui un peu dépassé par la jeune génération.
On verra.
Mais qui garde encore une belle pointe de vitesse. Bon, mais de toute façon, tu joues facile parce que là, t'es.
Je joue facile. Bah, non, ouais. Si j'avais joué facile, j'aurais dit Philipsen ou vous de Van Aert,
non,
par exemple.
Tu joues facile parce que effectivement, tu es sûr de gagner. Donc voilà.
Ah, il y a quand même Pierre-Yves hein, avec sa cote, ça peut envoyer.
Une cote à 50 hein, pour Alexander Christophe.
Voilà, bah, c'est
alors,
pas mal.
Moi, je vais changer.
Ah. Comment
parce qu'on a le droit de changer. Alors peut-être ça va diviser la cote par deux.
Oui, mais du coup, tu ne pourras jamais rattraper Jérôme. Il faut que tu gardes ta
cote. Oui, mais c'est pas grave. J'aimerais avoir un bon résultat une fois. Donc je vais dire Jesper Philipsen.
Ah oui, d'accord. diviser une cote à combien, là?
À 3-10.
Ah, donc, fait... Imaginez qui gagne. Ça fait Benjamin Thomas.
Ça fait une cote à 1,55.
C'est à peu près le pourcentage de tes cotes à toi.
Mais moi j'ai donné Philipsen, mais je vais doubler par rapport à toi quand même.
C'est pas grave. Je pense que je peux pas te rattraper.
Non, c'est pas Philipsen que j'ai donné.
Non, t'avais donné Van Aert.
Ah bah oui, j'ai donné Van
Aert. Ah oui, bah oui.
Mais la cote est très belle hein, de Wout van Aert. Elle était à 5,50, elle est à 6, tiens, elle vient d'augmenter.
Ah ouais, c'est intéressant.
Ouais, je la trouve extrêmement belle.
Tu peux rattraper Jérôme sur ce coup-là, non?
Non, quand même pas. À moins que tu mettes 100 euros.
On pourrait demander ben voilà, je vais mettre 100 euros.
La cote peut-être de Pierre Amiche, on pourrait lui demander.
Ouais, hein, parce que ça a été très malin, ça, de lancer les paris quand Arnaud n'est plus sur la moto. Comme ça, il ne peut pas lancer il peut pas nous donner son pari, Arnaud Souk. Il te l'avait donné hier.
Ouais.
Ah, il me l'a donné tout à l'heure, il m'a dit Wout van Aert.
Ah, ok.
Ouais, oui. Très bien. Pierrot, donc, il nous rejoint aujourd'hui sur les Champs-Élysées.
Eh oui, bonjour à tous.
Ça va?
Oui, bon, je me suis dit, les 20 premières, je vous laisse faire. La 21e, je vais vous montrer ce que c'est les parieurs.
Est-ce que tu vas mettre Mozzato pour faire plaisir à Jérôme Pinot et Fred Adam qui viennent d'entrer?
Évidemment que non. Quel est le but? Que je tente une cote impossible ou une victoire sûre?
Si tu veux battre Jérôme Coppel.
Pas impossible, mais pas trop facile.
Je pense que Hugo Hofstetter peut faire podium aujourd'hui. Je pense qu'il peut être dans les trois.
C'est bien ça.
Ah, okay. Et donc, moi, je l'ai joué sur un site concurrent à 200. Donc, c'est une très belle cote.
T'as mis combien?
J'ai mis 2 euros. Tu sais, j'ai des petits moyens.
et tu n'as pas mis Luca Mozzato dans le top 3?
Non, je n'ai pas mis Luca Mozzato. J'ai mis les deux Français qui pouvaient sprinter, Le Croix et Hofstetter. Et on ne sait jamais, un miracle sur les champs, ça peut arriver. Ouais. Hein, on n'est plus à Lourdes, mais bon, ça peut arriver.
Bon, voilà, il rentre dans les paris. Peut-être qu'il va battre.
Ce serait énorme. Quand t'as 200 et que je coiffe au poteau Jérôme Coppel, ce serait fou. Là, ce serait mieux que Pogacar l'année dernière.
Merci Pierrot. Johan, ton pronostic?
Vrai que Hofstetter sur le podium, c'est 35 quand même. C'est pas mal la cote de Pierre. Moi, j'avais dit Jakobsen hier, mais j'ai envie de changer. Tiens, j'ai envie de tenter une cote un petit peu plus belle. Mats Pedersen, elle est vainqueur. C'est le tour des Danois là, je pense. Donc Mats Pedersen côté à 13.
Ok, on a encore un parieur là, qui arrive à l'instant même, Jérôme Pinot, qui nous rejoint. Il n'avait pas été brillant non plus lorsqu'il faisait partie de l'équipe RMC dans les paris. Hein. Je crois que tu avais terminé dernier. Non, battu quand même. Tu avais quand même battu le druide, Jérôme, non?
Maintenant, il peut miser beaucoup plus d'argent.
Ouais, maintenant, il est riche à millions. Maintenant que la capitale vient donner des milliards. Jérôme, ton pronostic?
Ou Luca Mozzato, évidemment.
Et évidemment. Il a fait combien de top 10 là, depuis le départ du tour?
Il est à 3.
Il est à 3? Il combien de top 5?
Il est à 1, 5.
Combien de top 3?
Et pas.
Bon,
c'est pour aujourd'hui.
Et ben voilà,
il suffit d'une fois. Hein.
T'as raison.
Et si Mark Cavendish avait été dans le peloton, est-ce que tu aurais mis vainqueur ou pas?
Ça dépend dans quelle équipe.
Il est très fort. Voilà comment il s'en est sorti. Il va venir nous parler dans quelques instants des bonnes nouvelles qu'on a donc appris ce matin en écoutant RMC. 19h06, voilà pour les paris. À tout à l'heure, Johan.
À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.
On fait un point quand même sur la course avant de discuter avec Jérôme Pierre-Yves. On est à 33 km de l'arrivée, toujours sur les Champs-Élysées dans la partie montante.
Oui, avec ce petit groupe qui avait quelques mètres d'avance et que des coureurs arrivent à rejoindre. Un groupe avec Stéphane Bisseger, avec Yann Trapnik, avec Mathieu Burgono, Dani Martinez ou encore Stan De Wulf. On est à 32 km de l'arrivée. Il n'y a plus que 3-4 mètres de différence. Peloton groupé à l'instant au moment où on arrive sur l'Arc de Triomphe.
19h07 sur RMC. On revient dans un instant pour la suite et la fin de ce Tour de France, la 21e étape aujourd'hui, arrivée probablement au sprint tout à l'heure sur les Champs-Élysées.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
19h08 sur RMC, au moment où Fred Adam entre dans le studio. Il n'a pas l'habitude, parce que lui, il a l'habitude du camion à pizza. Et là, il est dans un grand studio, dans un gros camion. Il va failli tout casser. Il est là avec le patron, Jérôme Pinault, qui nous rejoint. Lui aussi, ancien membre de l'équipe d'RMC, notre copain Jérôme. Il est là avec de bonnes nouvelles. Comment ça va, monsieur Pinault ?
Ça va très bien. Bonjour à tous.
Bon, alors, ça y est, vous êtes parisien, vous quittez la Bretagne.
Non.
Qu'est-ce qui se passe ?
On ne quitte pas la Bretagne. On est la jeune équipe bretonne qui monte à Paris avec son savoir-faire et qui va essayer d'appliquer à tout le bassin d'Île-de-France et rester les pieds en Bretagne pour développer la meilleure équipe possible, les meilleures équipes possibles, avec une équipe féminine, une équipe masculine de haut niveau. Vous l'avez vu sur ce tour, il faut des moyens pour briller, pour être en haut. Et puis surtout ce qui nous tient très très à cœur, l'académie qui sera mixte pour la première fois, et une académie avec des jeunes garçons et des jeunes femmes qui seront issus des clubs bretons, mais aussi des clubs parisiens. On pense notamment très fort au Paris Cyclisme Olympique, qui est l'un des clubs qui travaille le mieux au sein de la ville de Paris, avec qui on va d'abord se rencontrer, apprendre à se connaître et puis développer, puisqu'on croit beaucoup dans la formation. On ne va pas changer notre façon de faire. On va continuer à travailler auprès des jeunes, développer notre académie, développer les jeunes talents, attirer les jeunes talents hommes et femmes sur le vélo pour prendre une licence. On a beaucoup de Parisiens et Parisiennes qui font du vélo pour se balader, qui n'ont pas conscience du niveau qu'ils peuvent avoir. Donc on va essayer de leur donner cette chance de faire ce loisir, pour le moment un sport de haut niveau. On va profiter évidemment de l'ampleur du Tour de France masculin, mais aussi féminin, pour les attirer.
Alors quel est le terme de cet accord, Jérôme? Est-ce que la ville de Paris, vous allez prendre le nom de Paris? L'équipe de Jérôme Pinault s'appellera comment la saison prochaine?
C'est encore un peu trop tôt pour en parler. En tout cas, Paris est un soutien, est un partenaire aujourd'hui.
Mais un partenaire qui ne va pas donner d'argent.
Évidemment, il n'y a pas un centime public.
Les contribuables parisiens peuvent être rassurés.
J'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Il n'y a pas d'argent public dans l'équipe. Le but de notre partenariat est de travailler avec Paris sur la beauté, sur la grandeur, sur les compétences au sein de Paris. On va travailler sur le côté sportif, mais aussi sur le côté sociétal, sur le côté écologique, sur le côté médical, avec la puissance que nous donne la chance de travailler avec Paris. Et puis cette puissance de marketing, cette puissance de communication qui est très importante pour nous. Mais je le répète et je le dis, l'équipe est bretonne, l'équipe vient de Bretagne, elle monte à Paris et il n'y a pas un centime de dépensé par la mairie de Paris. Ça n'est pas un financement public de cette équipe, c'est une appellation Paris, qui est une très belle marque, associée à une ou deux autres grandes marques. Et évidemment, dans ces deux grandes marques, n'oublions pas, B&B Hotel est encore sous contrat avec l'équipe, et l'équipe portera toujours le nom de B&B Hotel l'an prochain.
Mais le but, c'est, avec cette association avec Paris, c'est d'attirer justement des sponsors, parce que le nom de Paris est plus ronflant, c'est ça, Jérôme ?
Le but est d'attirer, le but à attirer. Et aujourd'hui, on a envie de donner l'envie encore plus, aller plus haut. On s'est donné un cap, on est en train de y arriver. On a cette ambition d'être solide sur deux niveaux, très haut niveau. Attention, aujourd'hui, pour faire une équipe qui essaye d'exister sur le Tour, il faut des moyens, il faut des gros moyens. Une équipe féminine qui participera au Tour de France l'an prochain. Donc, on réunit un certain nombre d'entreprises qui sont attirées à la fois par le cyclisme, mais aussi par l'ampleur et le développement de la ville de Paris pour nous accompagner et mettre un pied dans le cyclisme. Et pour certains qui n'y avaient pas pensé sans que Paris arrive jusqu'ici. Donc évidemment que c'est pour nous une caisse de résonance énorme. Ouais. Et puis, on ne va pas se cacher, la ville de Paris est au soutien pour ouais, évidemment attirer les soutiens financiers.
On rappelle
privés.
Qu'il y a un événement important qui arrive à Paris dans deux ans maintenant.
Et, cet événement-là est à la base de tout. Tu as vu et vous l'avez vu, l'éminence et l'arrivée de l'équipe Sky à la suite et en parallèle des Jeux Olympiques de Londres. Et évidemment que cette idée-là est à la base de le développement de la future équipe Paris, parce qu'on ne veut pas et parce que la mairie ne veut pas laisser ce fabuleux événement que seront les Jeux sans trace après, sans continuité. Et on va se servir de ça pour continuer à travailler. Et puis Christophe, à te mettre sur un vélo et moins utiliser ta voiture, ça sera génial.
Mais tu rigoles, je me balade.
Alors là, c'est un sacré défi, on en a parlé tout à l'heure. Jérôme, deux questions très précises. Le budget, est-ce qu'on peut déjà en avoir une petite idée pour l'année prochaine? Est-ce qu'on est autour de 15 millions d'euros? On est autour de 20 millions d'euros?
Alors là, c'est mal me connaître si tu crois que tu vas réussir à me faire donner des chiffres.
Non, éventuellement, budget, après quelques coupes de chiffres, tu pourras y arriver ce
budget,
soir. Mais...
Le budget, on déjà, on ne divulgue pas un budget. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de mes collègues qui le divulguent. En tout cas, il est suffisant pour pouvoir avoir les ambitions qu'on a affichées, c'est-à-dire créer une équipe cycliste féminine de très haut niveau capable de monter sur le podium du Tour et sauter l'an prochain, et une équipe masculine qui va pouvoir jouer parmi les deux premières de la Pro Series. À toi de faire les calculs.
Voilà, très bien. Et deuxième c'est question. Notre inquiétude, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que le 1er août, c'est dans une semaine, que le mercato est très avancé. Est-ce que, et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà signées, est-ce que c'est une difficulté que cette annonce arrive assez tard dans un marché qui est déjà bien avancé pour ton recrutement ?
Alors l'annonce arrive tard, mais le travail a commencé bien en amont. Évidemment que on arrive à Paris et le soutien et le partenaire principal s'appelle Paris. Donc évidemment qu'on a déjà commencé à travailler et que on a déjà accroché quelques coureurs et approché quelques coureurs. Maintenant, c'est pas la date qui est compliquée, c'est le marché. Marché notamment sur les leaders pour les classements généraux, les coureurs français, est très fermé. Il n'y a pas de grosses opportunités à saisir. Pardonnez-moi du terme, ça fait un peu commercial cette histoire, mais c'est cela. Il n'y a pas de coureur français de très haut niveau libre cette année, mais l'équipe aura la forme en tout cas que je souhaitais, et on va se plier aussi à ce que nous imposent les classements UCI, c'est-à-dire aller chercher les points. Donc il va falloir être performant et encore une fois, 2023 sera une année de transition pour aller chercher cette deuxième place, en espérant avoir de belles invitations, ce qu'on espère avec ce nom-là et ce qu'on sait faire. Mais ça reste une continuité de ce qu'on a fait depuis 5 ans. Ça me fait rire et ça me désole un peu de lire ce que je lis parfois. J'invite tous ceux qui sont passionnés de vélo et qui ont un petit réseau de monter une équipe cycliste professionnelle et d'être au bout de 5 ans, d'avoir fait 3 tours, d'arriver à 8 à Paris et d'avoir eu le super combatif l'an dernier. J'invite tout le monde à le faire, c'est pas simple.
Ça fait blanchir la barbe, je crois.
Oui, ça fait blanchir la barbe, ça fait tomber les cheveux, même s'ils étaient déjà bien. Oui, et puis ça me fait beaucoup rire parce que on dit souvent des entraîneurs, il y en a plein les têtes, des managers, il y en a plein les des réseaux. C'est assez drôle, je les invite à venir.
Il y a des petites chances ou de fortes chances qu'on retrouve dans la future équipe, enfin le nom on ne le connaît pas encore, un garçon avec lequel tu as couru en 2013 du côté de Omega Pharma Quickstep, Mark Cavendish.
Il fait partie des grands noms libres. On cherche des grands coureurs et pour moi il est encore un grand coureur. On a échangé, voilà, c'est un ami, donc on échange régulièrement. Il est assez sensible à ce que l'on est en train de faire. Maintenant, Marc étant encore sous contrat avec Quickstep, mais rien n'est fait. On a discuté du projet sportif, mais pas que, de son avenir, de ce qu'il a envie, de ce qu'il peut apporter à l'équipe. Et puis, moi, par contre, il y a quelque chose qui m'excite, et c'est ce record. Et évidemment que si ce record, il peut le battre avec moi, qui ai travaillé pour lui, pour qu'il se rapproche de ce record, sous mon équipe et sous mon maillot, et en, qui plus est le maillot de Paris, BNB Hotel, ça serait fabuleux. On n'en est pas là. Il a beaucoup d'autres propositions, évidemment. Et je veux d'abord savoir si celui que j'embauche, ce ne sera pas que Marc ou que Cavendish. Je veux Marc Cavendish les deux, moi.
Jérôme, il y a un supporter inconditionnel du Paris Saint-Germain qui est dans le peloton. Toi, tu es un supporter du FC Nantes. Il s'appelle Thibaut Pinot. Ça serait pas mal quand même d'associer le nom d'une équipe cycliste.
Alors, quitte à te faire du mal, mais le projet est en train de se mettre en place et ce sera absolument l'inverse de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Donc, on n'est pas du tout.
Je croyais que tu allais partir au Qatar. Non, justement, il y a beaucoup de pays du Moyen-Orient qui se sont associés et qui ont donné le nom à des équipes cyclistes en amenant beaucoup de financement. Est-ce que toi, c'est une piste qui pourrait t'intéresser? Est-ce que tu as été voir de ce côté-là?
Absolument pas. Tu veux que je te rappelle la couleur et les valeurs de la ville de Paris et de sa maire, en tout cas, et de la mairie actuelle. Donc, on ne s'est pas tourné vers ce genre-là.
Qatar est quand même sponsor, plus que sponsor du Paris Saint-Germain.
Ouais. Qui est un très, très grand club français. Mais nous, on n'a pas été voir ces gens-là.
D'accord.
En tout cas, on n'a pas ce réseau-là déjà, et c'est absolument pas faire une copie sur le vélo du club de football. C'est du cyclisme. C'est d'abord l'envie pour un partenaire de montrer, d'appartenir au nom d'une équipe. Mmh. Et puis ensuite, ce sont des valeurs différentes. Et on n'est pas dans les mêmes sphères du tout. Je sais même pas si ces gens-là auraient accepté de nous rencontrer. En tout cas, on n'a pas essayé.
Jérôme, Paris donc 2024, Paris lieu d'arrivée de tous les tours Tour de France, c'est aussi une possibilité justement d'être invité quasiment chaque année au Tour de France, de s'associer à Paris. Est-ce que justement tu as pensé aussi à cet aspect-là?
J'espère qu'en tout cas ce projet la continuité de cette équipe va faire encore plus envie qu'elle ne l'a fait aujourd'hui, puisqu'on est déjà invité depuis 3 ans maintenant et qu'on n'a pas à rougir, mais malgré parfois la difficulté d'exister dans ce Tour de France. Maintenant, évidemment que ça nous donne encore plus envie de briller. Je crois que Christian et ses équipes invitent des équipes qui ont des résultats, qui marchent bien sur le Tour et qui ont quelque chose à porter au Tour, qu'elles s'appellent Paris ou autre d'ailleurs. Mais évidemment que ça peut amener quelque chose de frais, de novateur, et que l'arrivée en gros à Paris, et si en plus on peut partir de Bretagne, évidemment que c'est quelque chose qui est très excitant. Mais ça, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, on essaye de monter la meilleure des équipes et je veux qu'on soit invité parce qu'on peut apporter quelque chose à la course et que l'on peut y briller plutôt que parce qu'on s'appelle Paris ou autre chose.
Très bien, merci Monsieur Pinot. Vous avez encore du pain sur la planche là quand même. Hein,
bah écoute,
ce sera annoncé quand le grand sponsor là?
On communiquera maintenant sur l'identité des partenaires qui nous accompagnent et sur,
sur le Carrefour, nom, Orange, sur, Amazon, sur, c'est des noms.
On a tout entendu.
Ouais.
Ouais. Bah, donnez-leur mon numéro.
Jérôme Coppel aussi veut investir. On a entendu Jérôme Coppel dans les noms aussi, de.
Évidemment, évidemment.
Et Fred Adam avec ses énormes économies.
On aura de la communication, je dirais, fin du mois d'août maintenant. On va se poser gentiment. On va continuer à affiner les recrutements. Il faut recruter des coureurs, tu l'as dit.
Mais tu recrutes sans avoir encore officiellement ce gros sponsor, ou alors tu as les assurances qui va signer?
Bah, si je recrute, c'est que j'ai quelques
d'accord,
assurances.
D'accord, ok, d'accord. Donc ça va arriver. Et pourquoi tu ne peux pas le donner tout de suite? Parce que c'est pas encore tout à fait signé.
Parce que tout n'est pas établi et que chacun a son temps. Et aujourd'hui, il était
important. Donc t'as les sous, mais c'est pas encore signé, quoi, en gros.
Il était important aujourd'hui de communiquer sur notre collaboration et notre rapport avec la ville de Paris, le partenariat avec la ville. Et ensuite, il sera temps de divulguer le reste.
Merci mon Jérôme.
Merci à vous.
On est ravis pour toi et on espère évidemment que l'aventure va se poursuivre encore longtemps et que vous allez encore monter et grimper et remporter des étapes sur le Tour de France.
On va essayer.
Soit, évidemment. Autrement, tu sais que ta porte est toujours ouverte. On a un druide qui est en train de crever de l'arrière.
Ouais, j'ai vu, là, il est
en difficulté.
Il a pris un pavé sur les champs. Là.
Difficulté, grosse difficulté pour Cyril Guimard. C'est difficile aussi pour les hommes de tête actuellement qui possèdent 15 secondes d'avance. Un groupe de 5 en tête avec notamment de coureurs de l'équipe Groupama FDJ. Il reste exactement 20 km 800 à parcourir.
La fin de ce Tour de France et la dernière étape sans doute au sprint dans quelques minutes maintenant. Il est 19h21. On se retrouve dans quelques instants sur la route du Tour de France pour la dernière.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Jusqu'à 20h et un petit peu plus tard même, puisque nous assisterons tout de même au discours de Jonas Vingegaard tout à l'heure, le vainqueur de ce Tour de France. Il ne lui reste plus que 17 km 300 à parcourir, alors que le peloton compte une petite quinzaine de secondes de retard sur les hommes de tête, Pierre-Yves.
Oui, toujours une petite quinzaine de secondes. On sait que ça ne sera pas forcément suffisant. Philippe Gilbert à l'avant pour Caleb Ewan, évidemment son sprinter qui ne l'a pas emporté pour le moment sur ce Tour de France. À l'avant, Luca Krutsch, Duchesne et Van Poppel, un bon sprinter aussi, qui possède 12 secondes d'avance. Marco nous a rejoint.
Notre moteur préféré.
Bon Marco, un nouveau tour de réaliser.
Faut que j'appuie sur le bouton?
Non, c'est bon, il n'y a que Cyril qui doit appuyer sur le bouton. Bon, ça a monté vite aujourd'hui les Champs-Elysées?
Pas mal.
À 132, me dit-on, vous avez été flashé apparemment.
Non.
19 par rapport à
Arnaud oublie que c'est de la radio et il parle en dehors des micros, c'est incroyable. Eh bien écoute, tiens Arnaud, on propose, hein, puisque tu es là, on te propose de remettre officiellement à Marc Comte sa médaille, ce prix.
Exactement. C'est quand même pas le tour de. Voilà, c'est quand même pas n'importe quel tour pour toi, Marco. Je crois que c'était ton 20e, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et donc voilà.
20e voilà. Tour de France.
Il a
la médaille officielle. Ah ben envoyez
officiel du Tour de France à ton nom, Marco.
Ouais.
Voilà.
Incroyable. Magnifique. 20 Tours de France, mon Marco.
Ouais.
Voilà, remis officiellement. Alors c'est pas très radiophonique, mais je vais vous décrire le petit trophée indiqué Tour de France Marc Comte, voilà, qui est remis pour 20 Tours de France par l'organisation de ce tour. Voilà.
Quelle surprise.
Les motards, c'est capital dans le Tour de France. Il faut être en grande sécurité. Et moi, je l'ai été pendant des années. Et puis, à un moment, j'ai été trop vieux. Donc, place aux jeunes, c'est Arnaud maintenant qui souffre à l'arrière et que tu peux insulter tant que tu veux.
Mais non, je ne l'insulte pas.
Là
ça y est.
Ah, bah voilà, la musique au
protocole pour toi. Évidemment, tout le monde sur le podium pour te voir remettre cette magnifique, ce magnifique trophée. T'es ému, j'espère.
Ah oui, grave. Ouais. C'est vraiment, ça me touche. Ouais. Et venant de votre part.
Qu'ils ne faisons jamais de cadeaux, c'est vrai.
Cyril, on lui a pas trouvé de cadeau. Mais si on devait t'offrir le trophée de la combativité, mais malheureusement, nos amis d'Antargaz ont eu une panne de gaz aujourd'hui, donc ils n'ont pas pu venir te remettre le classement.
Mais il porte la poisse à tout le monde.
Mais
donc
oui,
voilà,
c'est ça.
Mais on lui apportera une bouteille de Ricard, 51 tours quand même.
Oui, 51
ça suffit, puis ça lui fera bien plus Cyril. Plaisir qu'un trophée.
Alors même pas photo. Hein.
Marco, donc, 20e Tour de France, Cyril, 51. Pierre-Yves
15.
Et toi, Christophe
21, mais moi, j'ai pas une médaille. Moi.
Comment ça se fait?
J'ai pas besoin de médaille. Parce qu'il faut les demander, les médailles. Donc là, c'est Arnaud qui allait demander pour toi.
Non.
Mais oui. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Ben, on est ravis pour toi. Et on espère qu'il y en aura encore. Combien Marco, là, encore de Tour de France?
On verra. Peut-être que l'an prochain, je vais remplacer le clown.
Le clown qui est sur le bord de la route.
Ouais. Avec mes cheveux.
Pas le Diablo quand même, rassure-moi, parce que t'as pas les mêmes tongs. Bon, ben on est ravis d'avoir encore ce tour avec toi. On espère évidemment qu'il y en aura encore plein, hein, et que toute cette équipe, cette joyeuse équipe, continuera sur les routes du tour. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Donc maintenant, c'est 11 mois de vacances, quoi, c'est ça?
Ben moi, j'ai mon transat qui m'attend.
Ah oui, c'est ça.
Bon, eh ben Marco, on est ravis de t'avoir avec nous. Et à l'année prochaine, évidemment, merci pour un 21e Tour de France. 19h28, on va s'intéresser à la course parce qu'on s'approche de l'arrivée désormais avec toujours notre petit échappé qui a du mal à prendre beaucoup d'avantages. Pierre-Yves, le top course.
Ouais, mais ils font le boulot quand même à l'avant, les coureurs, parce qu'ils sont toujours quatre avec Olivier Legac et Antoine Duchesne, notamment, à essayer de garder une avance suffisante. Mais il reste 14 km à parcourir. Ça va quand même être très compliqué, évidemment. 10 secondes, Olivier Legac là qui prend le relais, alors qu'on va passer sur la ligne et qu'il restera deux tours de circuit ici sur les Champs-Élysées. 13 km 800 à parcourir. Courir.
13 km 800 à parcourir. Il reste donc deux tours. Les équipes de sprinteurs qui commencent à mettre en route pour éviter qu'ils aient trop d'avance, Jérôme.
Oui, tous les coéquipiers des principaux sprinteurs favoris sont à l'avant. On a vu l'équipe Quickstep pour Jakobsen, bien sûr, Alpecin de Koenig pour Philipsen ou Lotto Soudal pour Caleb Ewan.
Voilà, ils sont tous là, les sprinteurs qui rêvent d'aller remporter cette étape. Duchesne qui continue d'appuyer ces deux hommes de la formation Groupama FDJ qui nous font plaisir, Cyril, aujourd'hui, qui ont envie de réaliser quelque chose, même si évidemment ils n'ont pas de sprinter cette année, puisqu'Arnaud Démare n'a pas été sélectionné par Marc Madiot sur le Tour de France, qui avait tout misé sur Pinot et sur Gaudu. Ben voilà, ils tentent aujourd'hui leur chance, vaillamment, même s'il n'y a pas beaucoup d'espoir que ça aille au fond.
Non, il n'y a aucun espoir que ça aille au fond, je suis désolé, mais quand vous voyez toutes les équipes de sprinter organisées derrière, ils ont 11 secondes d'avance, donc 11 secondes d'avance, ça doit faire 140 mètres, il reste deux tours, donc ils vont être gobés d'ici quelques temps par la grande bouche du peloton.
la boule qui se déplace plus vite que les hommes de tête. 12 secondes d'avance à 12 km 800 de l'arrivée. Tiens, si on fait une petite liste pour les pronostics quand même, pour savoir qui est capable de s'imposer. Tout à l'heure, j'en ai retenu 11. Jérôme, tu me dis si j'en ai oublié. J'ai mis Danny Van Poppel, j'ai mis Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Alberto Dainese, Alexander Kristoff, Hugo Hofstetter, Caleb Ewan, Mats Pedersen, Peter Sagan, Dylan Groenewegen et Luca Mazzato.
Oui, on aurait pu mettre Jérémy Le Croc peut-être, on ne sait pas, chez BNB Hotel, hein, on rappelle quand même Jérémy Le Croc, il a fait 7e sur la première arrivée massive au Danemark. Pourquoi pas? Alors après, on ne fait jamais un sprint avec deux coureurs, hein, on a le poisson pilote à voir entre eux si c'est plutôt Mozzato ou Jérémy Le Croc qui va faire le sprint, mais oui, je pense que tu les as tous cités.
Non, j'en ai oublié, hein. Wout Van Aert, mais qui est vraiment très loin dans le peloton actuellement.
Oui, bon, on n'est pas inquiet. Il reste 12 kilomètres. Il a le temps de remonter, surtout lui qui est très habile dans le peloton. Il arrive à remonter au milieu de la boule. Est-ce qu'il va aller faire le sprint? Je pense que oui. Gagner sur les Champs-Élysées, c'est quand même une victoire de prestige. Il l'a déjà fait. Et puis on l'a dit, hein, c'est un ogre. Il veut tout rafler, vous demandez.
Va-t-il faire bis repetita comme cela avait été le cas l'an dernier? Dernier contre la montre et dernier sprint sur les Champs-Élysées avec deux victoires de Wout van Aert. Il en est déjà à combien de succès sur les routes de ce tour?
Trois
victoires d'étape pour Wout van Aert qui va peut-être aller en chercher une quatrième tout à l'heure dans 11 km 800 désormais.
11 km 800, 8 secondes d'avance pour trois hommes désormais puisque Olivier Le Gac s'est relevé. Antoine Duchesne, Jonas Rutsch et Maximilian Charman qui possèdent donc 140 mètres d'après Cyril sur le peloton où ça va vite évidemment emmené par les équipes de sprinteurs. Trois hommes en tête et 8 secondes,
l'écart est en train de se réduire dans la descente des Champs-Élysées donc pour les trois hommes de tête, toujours le peloton qui les a en ligne de mire. En plus c'est vrai que sur les Champs-Élysées c'est difficile de se cacher parce que le peloton a toujours les hommes de tête en ligne de mire, hein.
Oui, surtout voilà, que ce soit dans la partie montante ou descendante des Champs-Élysées, une fois qu'ils ont fait le tour de l'Arc de Triomphe, c'est vraiment des grandes lignes droites. Même si vous avez une minute d'avance, le peloton vous a en visu, c'est impossible de, voilà, pour les trois hommes de tête d'aller jusqu'à l'arrivée. La partie tout au fond du circuit là, elle est un peu plus sinueuse avec un passage sous le tunnel, donc là ils sont un petit peu moins à vue, mais malheureusement pour les trois hommes de tête ça va être très très compliqué.
On se relaie régulièrement dans ce trio donc qui possède désormais 8 secondes d'avance dans la descente des Champs-Élysées. Il reste combien de tours encore à parcourir? Un tour et demi, hein, c'est ça maintenant?
Exactement, 10 km 500 exactement, un tour et demi à parcourir et c'est sans doute le tour qui va être le plus rapide avec les sprinteurs qui vont se mettre vraiment en organisation, en commando pour emmener leur sprinter à la victoire dans quelques instants. Philippe Gilbert qui fait une nouvelle fois au revoir à tout le monde, encore 10 km pour lui sur son ultime Tour de France. Les équipiers de Dylan Groenewegen sont à l'avant pour leur sprinter. 10 km exactement encore à parcourir pour les trois hommes de tête, Jonas Rutsch, Maximilian Charman et Antoine Duchesne.
Jonas Vingegaard qui se trouve à l'intérieur du peloton, pas très loin parce qu'on se méfie, hein, toujours malgré tout, Jérôme, de ne pas connaître une chute maintenant ou un problème technique. On le disait, Cyril le disait tout à l'heure en début de retransmission, lorsqu'il pleut, on prend les temps lors du premier passage, mais lorsque c'est sec, ça va jouer jusqu'à 3 km de l'arrivée, hein.
Exactement, c'est comme une étape normale, les temps seront pris aux 3 derniers kilomètres, mais avant, si vous avez une crevaison, une chute ou quoi, votre temps est compté. Donc bien sûr que pour Vingegaard, Pogacar ou même David Godu qui est quatrième, il faut rester à l'avant, il faut éviter les soucis jusque dans les 3 derniers kilomètres.
Le peloton désormais sur les quais de Seine avec toujours les trois hommes qui n'ont plus qu'une toute petite seconde ou 2 secondes d'avance désormais.
Oui, ils ne sont même plus que deux puisqu'à l'instant Antoine Duchesne se relève, Maximilian Charman de l'équipe Bora et Jonas Rutsch de l'équipe Education First lui continue. Non mais là à l'instant Charman fait signe à Rutsch, viens prendre un relais et il ne peut pas. Rutsch, les deux Allemands sont en tête mais il y en a un qui ne peut plus amener des relais alors que les Ineos Grenadiers sont en tête du peloton à maintenant une trentaine de mètres seulement derrière eux.
Que viennent-ils chercher là les Ineos?
Soit un petit sprint pour Pidcock ou pourquoi pas le coup du kilomètre avec peut-être Dylan Van Baarle par exemple qui est un très bon rouleur, très bon poursuiteur aussi. À voir, est-ce qu'ils vont jouer les troubles faits dans ce sprint final, pourquoi pas. On sait que Pidcock quand même il est très habile, il sait très bien se placer sur un sprint comme ça sur les pavés, pourquoi pas.
Et toujours en queue de peloton Wout van Aert et son maillot vert et son dossard rouge puisqu'il a été désigné combatif, super combatif de ce Tour de France, et peut-être va-t-il remonter dans quelques instants vers l'avant du peloton pour aller chercher une nouvelle victoire ici sur les Champs-Élysées comme il l'avait fait l'an dernier. 8 km 500, le peloton dans le tunnel et qui va aborder la rue de Rivoli dans un instant et remonter vers la place de la Concorde.
Et le petit point amusant, c'est qu'on pourrait tout à l'heure avoir le garçon qui sur son dossard a la lanterne rouge être de dernier, donc il a un dossard particulier aujourd'hui pour l'étape avec une lanterne rouge dessinée sur le dossard, et bien ça pourrait être lui le premier, Caleb Ewan qui est effectivement au classement le dernier.
5h41 de retard.
Ouais, ça fait quand même plus d'une étape, hein,
oui,
de retard.
Plus d'une étape, et bon, il n'aura pas tout perdu, hein, Caleb Ewan, même s'il ne gagne pas l'étape, on sait qu'il y a un nouveau sponsor qui est arrivé sur le Tour de France, qui offre un voyage à la lanterne rouge, donc on n'a pas le montant du voyage ni la destination, mais Caleb Ewan, il aura gagné des petites vacances.
Ça vaut le coup d'être dernier, le peloton dans la rue de Rivoli qui va aborder la place de la Concorde dans quelques instants. La cloche ne va pas tarder à retentir, la cloche du dernier tour sur les Champs-Élysées, Pierre.
Oui, ils viennent de passer pour l'avant-dernière fois sous la flamme rouge, les deux hommes
de tête, toujours avec une petite avance, mais quand même c'est costaud ce que font Jonas Rutsch et Maximilian Scharmann à l'instant. Les coureurs de l'équipe Bike Exchange pour Dylan Groenewegen sont désormais en tête derrière, avec Luke Rowe également pour Ineos Grenadiers. L'avant-dernière remontée des Champs-Élysées à 7,5 km de l'arrivée est maintenant entamée.
Voilà, plus que 7,5 km et plus que quelques secondes d'avance pour les deux hommes de tête. Ça accélère en tête de peloton avec les coéquipiers de Groenewegen, les Ineos qui ne sont pas très loin. On va entendre la cloche dans quelques instants lorsque les deux coureurs vont passer sur la ligne d'arrivée. Ils ont déjà franchi la flamme rouge il y a quelques minutes.
La fausse flamme rouge.
Bah oui. Ce sera la vraie cloche. Hein.
Oui, ce sera la vraie cloche dans maintenant 250 mètres, 300 mètres exactement pour Jonas Rutsch et Maximilian Scharmann qui se regardent et qui ont compris. Ils vont se relever, être rattrapés par Luke Rowe juste au moment justement où la cloche va sonner. Allez, on vous propose de l'écouter cette cloche. C'est parti. Ça doit faire du bien, Jérôme, d'entendre cette cloche hein, quand on passe et qu'on se dit il me reste plus que 7 km sur ce Tour de France.
Et oui, même un petit peu moins, 6 km 800 quand il passe sur la ligne d'arrivée. Ouais, celle-ci, elle fait du bien. On sait que le tour se termine, qu'on a accompli quelque chose d'assez extraordinaire, même s'il faut rester concentré sur ce dernier tour, parce que c'est là où tout va jouer pour les sprinteurs.
Exactement, et puis il faut rester très attentif aussi dans les équipes pour le classement général. On voit que les garçons restent très lucides, très professionnels jusqu'au bout, Cyril. Ils ne font rien lâcher, même quand c'est le dernier tour sur les Champs-Élysées.
Bien, surtout qu'il faut rester concentré jusqu'au passage sur la ligne, le dernier passage. Vous avez une faute d'inattention, on s'échappe un petit peu, on pense à autre chose et puis d'un seul coup ça va toucher.
Attention.
Alors
Cyril,
Vingegaard, non, ouais. Pogacar,
attaque de Pogacar.
Et Geraint Thomas.
Et Geraint Thomas dans la roue, Pogacar qui fait encore un numéro qui amuse la galerie. Enfin, quand je dis qu'il
amuse pas du tout.
Il amuse pas derrière effectivement. Geraint Thomas est obligé de s'arrêter lui sur le côté. Dylan Van Marle va réussir à faire le jump, mais Pogacar il appuie quand même hein. C'est pas simple d'aller le chercher. C'est Filippo Ganna d'ailleurs qui est dans sa roue, ce n'est pas Dylan Van Marle. Puis un coureur de l'équipe DSM, Pogacar qui continue, qui appuie 5 700 km. Grosse accélération de Pogacar qui va être rattrapé à l'instant, qui serre les dents, mais à qui on peut dire merci parce qu'il aura animé ce Tour de France.
Et on ne voit pas les hommes de Vingegaard à l'avant du peloton. Ils ne croient pas à cette attaque de Pogacar. Il ne va pas reprendre 3 minutes 26 aujourd'hui, mais bon, ça doit leur faire drôle quand même de voir encore Poggi attaquer ce garçon à un panache dingue. Je sais Cyril que tu n'aimes pas trop le panache, mais il nous a régalé depuis 2 ans maintenant, même si cette année il a perdu ce Tour de France. En tous les cas, il se sera montré tous les jours encore.
Il aura perdu avec panache.
Exactement, ben oui, mais il avait gagné avec panache aussi il y a 2 ans.
Je voulais expliquer quelque chose, il m'a coupé la parole Pogacar.
Oui, c'est voilà. Pogacar.
Oui, parce que je disais qu'il fallait garder une attention jusqu'au bout, car il y a un petit détail que l'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Quand on parle des 3 derniers kilomètres, c'est effectivement s'il y a une chute collective, etc. Mais si vous chutez et que vous ne franchissez pas la ligne, vous n'êtes pas classé. Oui. Dans les autres étapes, vous ne franchissez pas la ligne dans ces 3 derniers kilomètres, vous pouvez repartir le lendemain, mais le dernier jour, vous devez obligatoirement franchir la ligne d'arrivée. Alors imaginons que, alors on va dire Vingegaard ou Pogacar a un petit problème, il y a une gamelle et il ne peut pas rallier la ligne d'arrivée, il n'est pas classé, même si c'est dans les 3 derniers kilomètres.
Est-ce que vous avez souvenir, parce que j'ai un petit trou de mémoire, Abdoujaparov,
c'était le cas,
n'avait pas passé la ligne, c'est ça? Donc il n'avait pas été classé. Si, il avait passé la ligne. C'était relevé après la chute.
Il avait mis un long moment. Ouais. Une fois qu'on a eu réparé la balustrade, les barrières, il a pu repartir. Mais il a fallu qu'il répare d'abord. Donc il a ressoudé les tubes et tout.
Et lui, il n'était pas réparé, malheureusement.
Exactement.
4 km encore. Pogacar a réintégré le peloton. Nils Polite, désormais, emmène tout le peloton du Tour de France de la formation Bora.
Oui, et j'ai l'impression que Wout Van Aert ne fera pas ce sprint. Il est vraiment tout au fond de la classe, Wout Van Aert, alors que Nils Polite emmène le peloton. Je pense que cette fois Wout Van Aert ne viendra pas à la bagarre. Nils Polite qui met son maximum là pour essayer d'amener ses coureurs aux meilleures places. Quinn Simmons une nouvelle fois pour la Trek Segafredo de Mats Pedersen. On l'aura beaucoup vu, le plus jeune du peloton, coureur de talent dont on réentendra parler évidemment dans les années à venir. Dylan Groenewegen, Mats Pedersen, Cannes sont bien placés. Philippe Ogana, lui, est distancé à l'instant. Il a fait quelques efforts à l'avant. Et donc, Wout van Aert ne participera pas au sprint.
Ouais, en tout cas, il est pas très bien placé, à l'inverse de Benjamin Thomas et Hugo Hofstetter. On a vu Pierre-Luc Périchon remonter Benjamin Thomas. Et s'il nous faisait le coup du kilomètre, Benjamin Thomas en bon poursuiteur, pourquoi pas, toi qui l'as enlevé de tes paris, Pierre.
3 kilomètres, on y est désormais. En cas de souci, il faudra passer la ligne. Cyril nous l'a rappelé. Mais en tout cas, les temps seront pris désormais. Pas de souci pour les leaders de kilomètre 800.
On a vu que Vingegaard, Van Aert et toute la formation de Jumbo se trouvaient à l'arrière du peloton. Surtout ne pas prendre de risques. Ils vont laisser sans doute la victoire et franchir la ligne avec quelques secondes derrière, peut-être, Jérôme.
Oui, peut-être qu'ils vont terminer tous ensemble et profiter de cette dernière ligne droite sur les Champs-Élysées. Je serais quand même surpris de ne pas voir Van Aert faire le sprint. C'est quand même faire une croix sur une victoire de prestige. Alors, est-ce qu'il n'avait pas les jambes? On verra. Est-ce qu'il va finalement remonter? Ça me paraît compliqué. Il est un petit peu loin maintenant, surtout que ça roule très vite. Mais voilà, je pense qu'ils vont terminer tous ensemble, l'équipe Jumbo-Visma, et profiter de cette dernière ligne droite. Et
puis Jakobsen est dans le coup, là, le coureur de la formation Quickstep. Je l'ai pas vu à l'avant-garde.
Peut-être. On voit pas trop les Quickstep à l'avant, non. En tout cas pour le moment. On aperçoit les Bike Exchange, on aperçoit les Arkea également, on aperçoit les Total pour Sagan. Mais c'est vrai que
oui, il est
là.
Ouais, il est sur là, la droite de la route. Ouais, ouais. Il est en 20e position à peu près.
2 km de l'arrivée désormais pour le peloton qui entre à nouveau dans le tunnel et qui va ressortir. Tourner à gauche dans la rue de Rivoli. On va commencer à préparer le sprint. On rappelle qu'il y a la place de la Concorde avec ce virage. Et puis ensuite, on va déboucher sur les Champs-Élysées pour le dernier sprint, la dernière ligne droite de ce Tour de France 2022, Pierre-Yves.
Voilà, ils sont salués par Jeanne d'Arc à l'instant, les hommes de tête. Et il va falloir partir au front là pour les sprinteurs et les poissons pilotes. C'est de plus en plus rapide. Belle accélération là sur la gauche de la route, peut-être de Benjamin Thomas pour ce fameux coup du kilomètre. Il arrive à sortir pour le moment avec un coureur de l'équipe Education First dans sa roue. Il tente quelque chose, Benjamin Thomas. En tout cas, il va peut-être réussir. Non, ça sera compliqué puisque à l'instant, les Bike Exchange reviennent dans sa roue. Il reste en première position, mais il n'arrivera pas à faire la différence. Dans un instant, on aura la flamme rouge.
La flamme rouge qui arrive dans quelques instants. Benjamin Thomas qui se retourne. Il n'a pas réussi à faire la différence. Il a tenté la flamme rouge du dernier kilomètre de ce Tour de France 2022.
RMC, la flamme rouge.
Et ceux qui sont les mieux pour le moment, ce sont les Bike Exchange pour Dylan Groenewegen. On aperçoit également les Trek Segafredo pour Mats Pedersen. Benjamin Thomas a tenté quelque chose, mais il n'a pas réussi. Ils ne sont plus qu'une quinzaine maintenant au bas des Champs-Élysées. Plus que 600 mètres à parcourir avec un Florian Sénéchal qui est en bonne position, mais qui se retourne. Il ne voit pas son leader. Fabio Jakobsen n'est pas présent pour le moment. C'est parti pour ce sprint final avec la Bike Exchange pour Dylan Groenewegen. Il a encore son poisson pilote devant lui. On ne voit pas du tout ce qui se passe dans ce sprint pour le moment avec les coureurs de l'équipe de BNB qui sont présents également pour Mozzato et puis Jesper Philipsen qui lance son sprint. C'est parti sur la droite. La lutte entre Dylan Groenewegen sur la droite et Jesper Philipsen. Alexandre Christophe, et finalement c'est Philipsen qui s'impose. Nouvelle victoire pour le Belge ici sur les Champs-Élysées. Il n'était pas très loin, Alexander Christophe. Mais c'est Philipsen qui s'impose.
Jasper Philipsen qui décroche là son deuxième succès sur les routes de ce Tour de France. Il avait été l'un des derniers sprinteurs à mettre au fond depuis le départ à Copenhague il y a 3 semaines, alors que les équipiers du maillot jaune ont été décrochés et vont franchir la ligne tous ensemble avec un retard de 26 secondes. Donc il n'y aura plus 3 minutes 26 d'avance pour Pogacar qui lui était dans le peloton. Vingegaard accompagné de Van Aert et de tous ses équipiers restant encore sur la route du Tour. Ils vont arriver dans quelques instants, Pierre-Yves.
La victoire de Jasper Philipsen qui n'était pas forcément le mieux emmené, même si on fait toujours un super boulot du côté de l'équipe Alpecine. Il lève son vélo à l'instant. On a pensé que les bikes avaient fait le meilleur travail d'approche pour Dylan Groenewegen et finalement il a débouché un peu seul plein vent sur la droite de la route.
Oui, il a lancé son sprint de très loin, Philipsen. Rappelez-vous, l'année dernière il était assis sur le trottoir en pleurs parce qu'il avait terminé à la deuxième place. Et c'est vrai que Lucas Mesgek a fait un très bon travail pour Groenewegen, mais il a réussi, Philipsen, sur la droite de la route à partir tout seul et à faire un petit trou à l'inverse de ceux qui sont restés à gauche. On a vu Alexander Christophe et Caleb Ewan jouer un peu des épaules. Ça leur a fait perdre de la vitesse et le sprint était terminé pour eux.
Et c'est la 6e victoire d'étape pour la Belgique, Cyril. Voilà une nation, une vieille nation du cyclisme qui, à la différence de l'Italie, de l'Espagne ou encore de la France, un degré moindre, réalise encore de très belles performances puisque c'est la nation la mieux représentée en termes de victoire d'étape sur ce tour. Cyril ?
Oui, non, c'est vrai, j'ai rien à ajouter. Bravo les Belges.
Très bien.
Non, mais oui, j'ai cru à un moment que Caleb Ewan allait pouvoir passer, mais il s'est fait mettre dans la boîte, très très bien mis dans la boîte. Sinon, je pense qu'il avait peut-être sa carte à jouer, mais c'est un Belge qui a gagné. Les Belges ont remporté 6 victoires. Eh bien, c'est un tour réussi pour les Belges.
Il avait déjà 3 victoires sur le Tour d'Espagne. On voit là une deuxième sur le Tour de France avec ses équipiers à l'instant à l'arrière de la ligne. Et puis, on a aperçu Vingegaard avec son épouse Trine et la petite Frida pour un câlin derrière la ligne.
À 19h46, on repart aux États-Unis pour les championnats du monde de l'athlétisme. Kevin Mayer au lancer du disque, Aurélien.
Oui, et ça se passe pas mal pour l'instant. Un premier jet à 49m44. Kevin Mayer qui est pour l'instant deuxième de son groupe au disque derrière le Tchèque Sikora. Mais Sikora qui n'était pas dangereux au classement général pour l'instant. Kevin Mayer qui fait mieux notamment que l'Américain Zachary Zimek. Et en termes de points combinés, donc au classement provisoire, Kevin Mayer reprend la tête du concours avec 6216 points. Donc là pour l'instant tout se passe bien au lancer du disque. Il faudra quand même attendre évidemment le résultat du portoricain Hayden Owens de Lerme qui pour l'instant est le leader après 6 épreuves. Normalement il est moins performant que Kevin au lancer du disque, mais Kevin fait un bon jet donc à 49m49.
Merci Aurélien. Donc on suit évidemment avec toi les aventures de Kevin Mayer dans ce décathlon, même si la victoire sera difficile à aller décrocher pour le décathlonien français, à la différence de Jasper Philipsen qui a enrhumé tous ses adversaires sur ce sprint. On a vu le sprint vu de haut il y a quelques instants. L'écart est impressionnant, Jérôme. Il a fait la différence, et quelle différence.
Ouais, bah là il n'y a pas une match du tout, hein. Lui il s'est vraiment déporté sur la droite de la route au moment où il a lancé son sprint. Je pense vraiment que depuis le début de ce Tour de France, enfin depuis l'ensemble de ce Tour de France, c'est le plus rapide en vitesse pure. Alors des fois il y a des faits de course, il est enfermé, etc., mais c'est vraiment le plus rapide. Une fois il vient terminer deuxième après avoir lancé le sprint à 500 mètres. Voilà, deuxième victoire d'étape pour lui. L'année dernière il était deuxième ici en pleurs, cette année il pleure mais pour de meilleures raisons.
Alors que les enfants des champions, les enfants des porteurs de maillots distinctifs s'en donnent à cœur joie. Le petit, c'est un petit garçon je crois, le fils de Wout van Aert, qui fait tourner les pédales de papa, hein.
Exactement. Il a un maillot vert comme le papa avec un numéro de dossard à l'arrière. Pendant ce temps-là, Jonas Vingegaard lui profite, soulève son maillot jaune qu'il va maintenant pouvoir garder pour la vie. Jonas Vingegaard qui remporte ce Tour de France. On rappelle donc l'arrivée ici, non pas donnée par le logiciel de statistique qu'on a utilisé pendant tout ce tour, puisque le logiciel nous donne vainqueur Ilaria Sanguinetti devant Nathalie Kringsker et Alexander Kristoff qui termine troisième devant Jasper Stuyven. Donc je vous précise que ce n'est pas ça l'arrivée, c'est bien Jasper Philipsen qui l'emporte devant Dylan Groenewegen. Alexander Kristoff est troisième devant Jasper Stuyven parce que Mats Pedersen n'a pas sprinté sur ce coup-là. Peter Sagan est cinquième et Jérémy Le Croix est sixième. On en avait parlé pour l'équipe BNB Hotel KTM. Premier français Jérémy Le Croix devant Danny Van Poppel. Caleb Ewan est huitième et Hugo Hofstetter termine neuvième.
Ah, et la précision suisse de Tissot en prend un coup quand même. Aujourd'hui, ils sont à la ramasse. Déjà, c'était pas mal hier dans le contre la montre, finissent mal le tour, un peu cramé, un peu rappelé. Ouais.
Nos, là, amis, nos amis de NTT peut-être.
Ah oui, c'est qui, ouais. C'est NTT.
On va pas taper sur
tout. Oh, non,
on a suffisamment d'ennemis désormais.
Ils nous ont assuré quand même de bons résultats depuis le début de ce Tour de France. Jasper Philipsen qui s'impose donc, quel super sprinter. On essayait il y a quelques jours d'établir une hiérarchie dans les sprinteurs de ce Tour de France. Il y en a un qui finit très fort. C'est pas obligatoirement le meilleur, même si pour toi Jérôme, il est quand même très très costaud.
Oui, je pense que sur
pur comme ça.
Voilà, sur les sprints vraiment à plat, vraiment quand on enlève tous les incidents, les trains, etc., je pense que c'est le plus rapide avec Jakobsen quand il est en pleine possession de ses moyens. Là, on l'a senti vraiment râpé, il a pété de la roue, hein, Jakobsen du petit groupe devant. Donc Jakobsen, Philipsen, Caleb Ewan, s'il n'a pas ses pépins, c'est peut-être les trois coureurs les plus rapides du monde à plat. Et si on rajoute un peu de pente, bah, bien sûr, on a Wout van Aert au-dessus du lot.
Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, qui est en train de féliciter, de serrer la main de Jonas Vingegaard, le jeune Danois, 25 ans, qui remporte donc son premier Tour de France, peut-être pas le dernier. En tous les cas, la bataille entre Vingegaard et Pogacar nous aura tenu en éveil durant ces trois semaines de course. Cyril, magnifique bagarre entre les deux hommes et un grand, grand vainqueur, Jonas Vingegaard, qui a vraiment été supérieur à tout le monde sur ce Tour.
Oui, un Tour sur lequel on ne se sera pas ennuyé. On a vu un départ un peu une entrée en matière au Danemark un petit peu calme. Et puis après ça s'est déchaîné avec, à l'image de la première étape des pavés dans le nord, sur les pavés de Paris-Roubaix.
On va écouter Jasper Philipsen.
Oui, mais c'est pour ça que je m'étais arrêté.
D'accord.
Vous avez gagné l'étape sur les Champs-Élysées. C'est incroyable. C'est un rêve qui devient vrai. Réalité. Voilà, je suis super fier. Je vais mettre du temps à réaliser. Très fier de l'équipe. Finir le tour comme ça. Votre équipe avait confiance en vous. Vous pouvez nous expliquer les derniers kilomètres là pour réussir ça? Il n'y a pas eu d'erreur. J'étais en bonne position. Dylan Groenewegen était aussi costaud. J'ai fait mon sprint final quand j'ai voulu. Et voilà, super content, fier, gagner sur les Champs-Élysées. Voilà, il parle de rêve. Jasper Philipsen qui gagne donc sa deuxième étape. Ça peut pas être mieux. On a eu quelques soucis sur ce tour. Ça n'a pas été forcément le chemin qu'on voulait. Voilà, on a gagné la 15e étape, la 21e. Voilà, c'est incroyable.
Jasper Philipsen, coéquipier de Mathieu Van Der Poel, c'est peut-être à son leader qu'il faisait allusion, Mathieu Van Der Poel, qui est passé à côté de son tour et qui a quitté la grande boucle rapidement dans ce tour sans avoir pu se montrer, à la différence de l'an dernier. Là aussi, il avait quitté le Tour de France, mais après avoir porté le maillot jaune et avoir remporté son étape cette année, ce n'était vraiment pas le tour de Van Der Poel. On aurait bien aimé le voir challenger Wout van Aert comme il le fait, Cyril, depuis le début de sa carrière. Ça n'a pas été le tour de Van Der Poel, mais on le retrouvera sans doute rapidement, hein, on l'espère en tout cas.
Ben, je l'espère, mais il faut noter quand même que depuis son expérience olympique en VTT à Tokyo et sa grave chute dès le premier tour, il n'a jamais revenu à son meilleur niveau, souvent arrêté avec des problèmes récurrents de douleurs au niveau du dos, au niveau des cuisses. Il est vrai qu'il avait fait une chute très spectaculaire et puis il a été sans arrêt arrêté justement avec ses problèmes. Des arrêts de 15 jours, des arrêts de 3 semaines, on reprend l'entraînement. On a un hiver qui n'est pas des plus studieux. Et il arrive au départ du tour avec quand même un handicap au niveau de son niveau de performance. Et sur le tour, ça ne pardonne pas.
Et Jasper Philipsen a compensé la mauvaise forme de Van Der Poel puisqu'il remporte sa deuxième victoire d'étape. Il s'était déjà imposé dimanche dernier dans les rues de Carcassonne à l'issue de cette journée terrible marquée par la canicule. Le premier Français de cette étape, c'est Jérémy Lecro de la formation B&B Hotel, sans doute revigoré par les annonces de son manager ce matin. On l'écoute.
Jérémy, premier Français, a priori sixième sur ce sprint. Vous avez profité un peu là de cette arrivée sur les Champs-Élysées?
Avant toute chose, je voudrais dire que j'aime le veau. Et je suis vraiment content de faire sixième sur cette ligne droite. C'est mythique. J'en rêvais depuis que je suis gamin. Pouvoir y rouler et y sprinter, c'était un rêve, donc je suis vraiment content et en plus c'est un petit résultat qui fait plaisir, donc c'est génial.
Quel bilan vous tirez de ce tour pour vous?
Que le vélo c'est difficile et que le tour c'est encore plus dur.
Vous avez profité quand même de cette expérience?
Non, bien sûr que j'ai profité de tout, de chaque instant, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, j'ai vraiment profité à 100%, je suis vraiment content d'avoir fait ce tour-là. Ça prouve à moi-même aussi que je suis capable et que j'espère progresser encore d'année en année.
Voilà, Jérémy Lecro qui termine sixième de cette dernière étape du Tour de France. Premier Français, le coureur de la formation B&B Hotel, qui a donc réussi à placer le mot « j'aime le veau ».
Oui, c'est là,
il fallait le faire. Il y avait un pari sans doute avec des copains.
Très certainement, hein, très certainement.
Rien à essayer de placer, toi, aujourd'hui?
Oh non, bah moi, c'est non. Pas mon genre de
Cyril,
placer comme ça.
Non, non plus. Non.
Non, c'est pas mon jour aujourd'hui.
Non, t'es bien parti.
Ouais, non, mais je me suis fait bâcher.
T'es cramé.
Je me suis fait bâcher à partir de 11h ce matin, donc je m'en suis pas rendu.
Allez, 10h. 19h56, on revient dans un instant sur l'arrivée sur les Champs-Élysées, évidemment, au terme de cette dernière étape du Tour de France. Jonas Vingegaard remporte l'édition 2022, le maillot jaune qui va s'exprimer dans quelques minutes et qui va entendre l'hymne danois retentir sur les champs. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.